Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Une émission d'Arti Parera, réalisée par Alphonse Lacoste. Avec aujourd'hui
Philippe Klett. Philippe Klett, chanteur, Philippe Klett, comédien, Philippe Klett, homme de radio, et Philippe Klett, fin 10h aussi. Philippe Klett, c'est tout ça à la fois, c'est aussi autre chose. Nous allons passer 60 minutes pour essayer de décortiquer ce qu'est cette autre chose. Mais d'abord, et comme le veut la bonne règle de l'éducation bien de chez nous, et puis la sincérité qui nous caractérise toujours aussi, Philippe Klett, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous avez sous le bras un nouvel enregistrement. C'est par lui que je voudrais que nous commencions. Ça s'appelle La Question. On écoute la question, puis si vous voulez, ben, on parle de tout après.
D'accord.
Sans me rendre compte de rien, j'ai fait le plus long du chemin. Je n'ai pas vu passer les jours, ni ma jeunesse, ni mes amours. Tout seul sur le bord de ma route, me voilà à l'heure où l'on doute. Et je me pose la question, est-ce que je suis déjà un vieux con? Bien sûr, je sais, rien n'est fini. Je continue, je vais, je vis. Mais à 45 ans passés, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beau me dire avec courage, tu es dans la force de l'âge. N'empêche que je me pose la question, est-ce que je suis déjà un vieux con? Ma femme a des idées nouvelles, voilà qu'elle veut vivre pour elle, voilà qu'elle veut se libérer. Elle dit m'avoir tout sacrifié, j'ai cru tout faire pour son bonheur, mais peut-être que par malheur, j'étais à côté de la question, est-ce que je suis vraiment un vieux con? Mon fils va avoir 14 ans, pour moi c'est un peu un mutant, il vit en anglais en cassette. Il habite une autre planète, on essaie de communiquer, mais c'est dur de se rencontrer. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que je suis déjà un vieux con? Pour le reste, ça vient, ça va, avec des hauts, avec des bas, dans mon travail je me défends. Mais c'est difficile et je sens qu'on se demande un peu partout, est-ce qu'il est encore dans le coup? Je sais qu'on se pose la question, est-ce que ce serait pas un vieux con? J'avais des rêves et des projets que je n'ai pas réalisé, je ne suis certainement pas le seul. Il n'y a pas de quoi me faire la gueule, il n'est peut-être pas trop tard pour attraper tout mon retard. et mettre à l'heure mes ambitions. J'ai peut-être pas encore un vieux con. Et mettre à l'heure mes ambitions. J'ai peut-être pas encore un vieux con.
La question, je crois que vous en êtes très fier.
Ah, j'en suis très fier parce que c'est une chanson d'abord d'un ami qui s'appelle Jean-Claude Massoulier, et puis d'un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gousseau. Et ils se sont mariés il n'y a pas tellement longtemps, et je trouve que ce mariage donne des enfants assez beaux. Jean-Claude est un garçon que je connais depuis très 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 longtemps, et il me colle bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas très très éloignés l'un de l'autre. On a à peu près les mêmes vues sur le théâtre, sur la chanson en général. Et il m'habille merveilleusement. Je suis pas facile à habiller, vous savez, je sais pas si... Vous voyez, je fais quand même 1m90, j'ai jamais été foutu de m'habiller en confection. Pour la chanson, c'est un peu la même chose. Il me faut du sur-mesure.
Vous faites souvent référence à votre taille. Elle vous a gêné à une certaine époque de votre vie ?
Non, oh non, non, au contraire. Oh non, au contraire, c'est une taille formidable. Vous respirez dans le métro... On plane au-dessus de beaucoup de choses, on voit les choses d'un autre œil. On se cogne de temps en temps, bien sûr, comme tous les, oui, comme tous les longs.
On se cogne à quoi ? À des illusions, surtout.
À des illusions, comme souvent certains Don Quichotte.
Don Quichotte, il existe encore ?
Ah oui, il existe encore. Enfin, pour moi, il a existé beaucoup. Il a existé pendant toute une période de ma vie. C'était la pièce de théâtre avec laquelle j'avais passé ma première audition de comédie. C'était une pièce de Richepin. Le Don Quichotte de Richepin, ouais. Que personne ne connaît d'ailleurs. Et j'avais été accepté dans le cours de comédie où je m'étais présenté avec cette pièce. C'était facile parce que morphologiquement, il est incontestable qu'on ne peut pas trouver mieux. Surtout à l'époque, j'étais encore plus mince que je ne suis. Une barbe par là-dessus, une grande moustache, et ça y était. Et je n'ai joué cette pièce que beaucoup plus tard. Je l'ai joué quand Yves Jamiac me l'a écrite sur mesure. Il m'a fait un Don Quichotte sur mesure, que nous avons été joués à Lyon, que nous devions jouer 20 représentations, nous en avons fait 80. Et ensuite, nous nous sommes promenés à travers la France et la Suisse, la Belgique, avec cette pièce. Nous avons joué en tout 180 ou 200 représentations. Une pièce extraordinaire. C'est un personnage tellement fabuleux.
Viens avec moi, prends ton cartable. Dis au revoir à tes copains. J'ai à te parler. Attends, tu as du sable sur le visage et sur les mains. Les problèmes des grandes personnes, les enfants ne sans doute pas. Mais toi, tu as 10 ans, tu es presque un homme. Je sais que tu me comprendras. Ce soir à dîner, quelqu'un viendra. Une dame que tu ne connais pas. Je voudrais tant qu'elle te plaise, que tu l'aimes comme elle t'aime déjà. Ce soir à dîner, nous serons trois. Et si tu le veux, elle reviendra. Demain peut-être et un jour, si tu l'aimes, nous resterons toujours tous les trois. De nouveaux rideaux aux fenêtres, des fleurs partout dans le salon. Tu verras comme en un seul coup de baguette, elle fera chanter la maison. Un peu, tu sais, comme Blanche-Neige dans la cabane. Des 7 nains, elle a besoin de quelqu'un qui la protège. Ce sera toi, si tu veux bien. ce soir à dîner, quelqu'un viendra. Une dame que tu ne connais pas. Je voudrais tant qu'elle te plaise, que tu l'aimes comme elle t'aime déjà. Ce soir à dîner, nous serons trois. Si tu le veux, elle reviendra. Demain peut-être et un jour, si tu l'aimes, tu l'appelleras. Mais la voilà.
Alors moi, je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'il est sorti de sa légende et est-ce qu'il se promène en plein 1979 encore ?
Tous les utopistes sont des Don Quichotte. Tous ceux qui croient à la bonté de l'âme et à la bonté de l'être humain sont des Don Quichotte. Et il faut qu'il y en ait qui y croient. Parce que sinon, ce serait désespéré.
Est-ce qu'un utopiste n'est pas forcément un jour désespéré à force d'avoir été utopiste ?
Ben, je pense qu'à force de recevoir des coups, bien sûr, on pourrait se désespérer, mais je ne pense pas. Je crois qu'au contraire, les coups donnent des cales. Et un bon cale, c'est excellent, ça vous fortifie. Mais il faut être utopiste, c'est pas possible autrement, la vie serait pas tenable.
Ben, y a des gens d'ailleurs pour qui la vie n'est pas tenable et qui sont utopistes. Non.
Vous croyez ?
Vous ne croyez pas ?
Ils n'y croient pas sincèrement. Non, moi je crois à la bonté, à la bonté des gens. Je suis sûr que quand on fouille un peu, on trouve toujours un petit jardin dans le cœur de chacun. Un petit jardin secret qui n'est pas facile à trouver. Très souvent, ça se cache derrière une pudeur, ça se cache derrière la crainte des autres. Mais on trouve toujours, je suis sûr, dans le cœur des gens, un petit jardin secret. Regardez simplement les appels. Quand vous faites un appel à la bonté des gens, c'est absolument extraordinaire. Faites un appel sur une antenne pour une œuvre quelle qu'elle soit, c'est hallucinant ce qu'on peut trouver.
Un gentleman un peu noir a une poule dans un bar, offre champagne et caviar. On trouverait sa mémoire. Ce gentleman dans son frac disait poupée, si je claque, je veux que ce soit dans un lac. Un lac de cognac. Écoute-moi bien, j'avais 30 ans. Écoute-moi bien, j'étais tentant. Je n'avais pas encore de dents en or. Les femmes se battaient pour m'approcher. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves l'air rance. Mais fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Carlton. Ce gentleman un peu noir a tout cassé dans le bar, puis a sorti $7 et distribué des pourboires. Ce gentleman dans son frac a dit pianiste, Vladisac, joue les vieux airs sans entracte. Allez, joue en vrac.
Est-ce que vous ne croyez pas que lorsque l'on fait un appel, aussi sincère soit-il, et il en est qui sont sincères, il se trouve toujours une grosse masse de gens, et pas forcément la moins nombreuse, pour vous taxer de démagogie?
Oui, bien sûr, parce que derrière chaque appel se cache très souvent un but qui n'est pas toujours avouable. Mais il y a aussi des œuvres qui sont parfaitement honnêtes. Il n'y a pas que des gens qui font des appels par démagogie.
La démagogie, s'il fallait la définir d'un mot ou d'un trait de plume ou d'une colère, ce serait comment ? Comment la définiriez-vous ? Comment en parleriez-vous si je vous demandais d'en parler ?
Eh bien, c'est abonder dans le sens où les gens veulent que vous alliez. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Leur faire croire à des choses qui sont absolument fausses. Il faut dire la vérité aux gens. Ils sont beaucoup plus endurcis qu'on ne le pense et beaucoup plus capables qu'on ne le croit à l'endurer et à la croire, cette vérité. Quand vous leur dites que tout ira très bien l'année prochaine, qu'il n'y aura pas d'impôts et que tout baignera dans l'huile, non, ça c'est de la démagogie, c'est faux, c'est pas vrai. Nous sommes en pleine période de crise et il faut dire aux gens que nous sommes en pleine période de crise. Moi je ne dis même pas crise, je dis guerre. Nous sommes en période de guerre depuis à peu près une dizaine d'années. Eh bien, il faut leur dire que ça va pas bien et que ça n'ira pas mieux l'année prochaine, que ça n'ira mieux que quand on aura gagné la victoire. Je ne sais pas sous quelle forme.
Ni avec qui. Guerre économique, guerre des nerfs, guerre de l'esprit, guerre des esprits. Est-ce que cette guerre-là peut être, à moyen terme, aussi néfaste, quand on sait qu'elle peut laisser, que certaines autres qui sont physiques ?
Oui, bien sûr.
Toute proportion gardée, bien sûr.
Bien sûr, parce que les gens ne sont pas du tout, tous endurcis comme nous pouvons l'être au bout d'un certain temps. Il y a toute cette jeunesse qui est arrivée et qui arrive chaque jour sur le marché et qui se cogne à des murs que nous avons l'habitude, nous, de rencontrer. Et vous et moi, on l'avons rencontré certainement, des murs dans nos vies.
Voilà.
Ça nous a endurcis. Les jeunes ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas la chose. Et on leur a souvent fait miroiter un avenir merveilleux. Évidemment, ceux-là, on leur rend des séquelles. Ceux-là, plus tard, ça risque de faire des aigris. Et il n'y a rien de pire.
Un vieil accordéon chante dans la ruelle. Un vol de goéland valse dans le ciel bleu. Une fille plus très jeune, une fille pas très belle, mais qui l'a peut-être été, chante au matin d'été. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Il est mieux foutu que leur drapeau. Il a les dents blanches, et les lèvres rouges, et le regard bleu. L'accordéon s'est tu. Les oiseaux sont partis, peut-être pour Honolulu ou bien pour Tahiti. Tout l'hiver il a plu, le vent a gémi, et la fille a dit oui à tous ceux qui ont voulu. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Il est mieux foutu que leur drapeau. Il a les dents blanches et les lèvres rouges et le regard bleu. Voilà le printemps qui revient et les oiseaux pareils. Les bateaux, les marins brillent dans le soleil. La fille est au bistrot, le patron dans sa caisse dit qu'elle s'en va de la caisse et même du ciboulot. De vin blanc, de vin rouge, elle lui a foutu un beau drapeau. Elle s'est tuée d'un coup de couteau. Un matin de dimanche, le soleil était rouge et le ciel tout bleu. Pas beau à voir, ça fait une drôle d'histoire. Et comme d'habitude, le temps a passé, et personne n'y a plus pensé, si un marin. Salut patron, rouge comme d'habitude, et elle est là. Oh merde.
N'avez pas l'impression que dans le monde où nous vivons, il est des jeunes qui sont vieux sans être passés par l'âge adulte.
Ça a toujours été. Il y a toujours eu des jeunes qui avaient déjà l'embonpoint du PDG de société et qui ne pensaient qu'à la retraite. Ce qui est mortel à l'heure actuelle, dans l'esprit des gens, c'est cette fameuse retraite. C'est épouvantable quand vous avez un jeune de 20 ans qui pense à la retraite qu'il aura quand il en aura 58 ou 60. Vous voyez qu'il ne se fait pas un bel avenir. Moi, à la retraite, j'ai jamais pensé. Jamais, vous me direz que je suis dans un métier spécial. Mais je pense que si j'avais pris un autre métier, j'aurais été absolument contre ce genre de choses. La retraite, vous la prenez quand vous voulez, vous. C'est à vous de la... Mais pas à la naissance, enfin. Pourquoi pas aussi prendre à la naissance son caveau ?
Les diverses activités que vous exercez, on a parlé tout à l'heure sur l'indicatif de début, il y a la chanson, la comédie, il y a eu le cinoche, le cinéma, il y a eu la radio aussi. Est-ce que tout ça fait un tout ? Vous allez sûrement me répondre que oui. Mais quand même, est-ce que c'est vraiment un tout ? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas des compartiments qui ne peuvent pas interférer les uns avec les autres ? Est-ce qu'il vous a fallu plusieurs dons ou est-ce qu'un seul a suffi, en fait ?
Oh, je pense qu'il y en a qu'un qui a suffi. La chanson, c'est spécial. On ne peut pas faire tout en même temps, en tout cas. Ça, je l'ai constaté maintes fois. C'est-à-dire tourner un film et préparer un tour de chant en même temps, c'est absolument impossible. Jouer une pièce de théâtre et aller chanter le soir dans un cabaret ou ailleurs, c'est pas possible, c'est impossible. Alors, moi, j'ai toujours fait, à certaines périodes de ma vie, les choses, mais chacune leur tour. Là, cette année, j'ai fait une rentrée musical, je fais du musical. Le mois prochain, j'arrête un tout petit peu, parce que j'ai une dramatique à faire pour FR3, qui va me prendre un certain temps, donc j'abandonnerai la chanson pendant ce temps-là. Mais, c'est, si vous voulez, ça procède du même don. C'est-à-dire le don de communication.
Festival d'Aubervilliers, les rues sont lavées, essuyez vos pieds, emmenez vos dames. Allongez vos tickets d'entrée, sortons-les de sous l'oreiller, allume tes quinquets, fais-toi une beauté, laisse tomber de Paname. On va s'en payer. Sous ta jupe et ton chandail, ah, quel beau travail. Je te signerai un bail sans faire le détail, ma jolie canaille. Un carrosse et fouette cochée, allons réveiller nos gambettes rouillées. Bonjour messieurs, dames. Envoyez la tournée pour le vrai Festival d'Aubervilliers. Je vais t'offrir aux frais de l'Orphéon un petit pas de black coton. Et si t'as le cœur qui chavire un bras, viens dans le coin derrière le crin-crin de soin. Retrousse le quartier, parlez d'un ramdam. Faites passer la monnaie. J'ai plus le rond pour m'astringuer. Mon or s'est taillé par le bout de mes pieds en plein macadam. Envoyez le cocher, on va s'en retourner. T'as les cheveux embroussaillés à tourbillonner. On va se faire une veillée pour bien se choyer, ma petite tête de fée. Bien le bonsoir la société, et chaque mois de juillet, faut nous expédier un petit télégramme pour se payer une virée dans le vrai Festival d'Aubervilliers. Ciao.
Est-ce qu'au travers du son, est-ce qu'au travers de l'image, on peut s'exprimer comme au travers de la plume ? Ou est-ce qu'on peut mieux s'exprimer ou est-ce qu'on peut moins bien s'exprimer ?
Ah non, on peut moins bien s'exprimer qu'à travers la plume. J'écris des contes, j'écris des choses comme ça et je ne pourrais pas le faire sur une scène. D'abord parce que je ne suis pas l'auteur de mes textes. Alors ça, c'est un handicap. Je ne peux pas m'extérioriser, si vous voulez. J'extériorise les autres, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont dit. Mais en écrivant, vous allez beaucoup plus loin. Vous vous déculottez beaucoup plus parce que ce n'est pas vous. C'est un peu le procédé du clown. Vous voyez, un clown a beaucoup plus de culot qu'un artiste qui n'a pas de masque. Parce que ce maquillage que l'on met sur le visage d'un clown fait qu'il n'est plus lui-même. Et ça lui permet de faire des choses que quand vous êtes nu devant le public, vous n'osez pas. Le grand drame de notre métier, c'est la pudeur. Il faut être absolument impudique pour faire un bon comédien. Vous savez, quand on dit, vulgairement, il faut quitter son froc pour faire un bon comédien, c'est ça, c'est se déshabiller. Moralement, bien sûr, il ne s'agit pas de faire un striptease. Mais ce métier consiste à se déshabiller complètement et d'être totalement impudique. Nous sommes des impudiques. Tous ceux qui se produisent sur une scène, qu'ils soient hommes politiques ou autres.
Le métier de spectacle, c'est aussi de l'exhibitionnisme?
Oui, c'est une forme d'exhibitionnisme. À mon avis, c'est une lutte contre la timidité. Je suis sûr que si on faisait un sondage et que de tous les comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses qui sont sur le marché, on s'apercevrait que ce sont tous de très grands timides au départ.
La timidité, c'est un complexe ou c'est un état?
C'est un état. Non, c'est pas un complexe. Pour être complexé, parce qu'on est timide. On peut être timide devant quelqu'un qui vous file des complexes. Ça, c'est autre chose. Ça m'est arrivé deux fois de tomber sur des personnages qui m'ont vraiment filé des complexes. Parce qu'ils planaient sur une échelle où je n'étais pas capable de grimper. Ils allaient très loin. J'ai eu un jour une comparaison entre les mathématiques et la musique. Croyez-moi, j'ai perdu les pieds et je me noyais. Je nageais une brasse papillon, même une brasse coulée.
Les mathématiques et la musique.
Oui, un rapport entre les mathématiques et la musique. Moi, je vous dis, je serais incapable de vous développer cette thèse, mais j'étais complètement paumé. Et ces deux personnages avaient l'air parfaitement heureux de faire ces constatations extraordinaires du rapport entre les maths et la musique. Ça vous file des complexes.
Ah bon?
Ah oui, oui.
L'incompréhension qu'il vous arrive d'avoir vous donne des complexes?
Ah oui, quand je ne peux pas suivre certaines conversations, ça me file des complexes. Alors moi, je les entraîne sur la mienne, où je suis assez fort.
Et quelle est celle où vous êtes?
Oh, bah, mon métier.
Alors, on va y revenir à votre métier. Bon, vous avez parlé de la chanson, on a parlé du métier de comédien. Et puis, la radio, vous y avez touché aussi.
Ah, la radio, j'adore. J'ai fait la découverte il y a quelques années de la stéréophonie, et ça, c'est une passion. Ça, c'est une passion parce que c'est le cinéma de l'imagination. C'est formidable, vous comprenez? Il ne touche que l'ouïe, et on arrive à donner des déplacements avec les micros. On arrive à faire vraiment... Je parle en dramatique, je ne parle pas en musique. En musique, c'est différent. Mais en dramatique, vous arrivez à donner les déplacements des comédiens sans qu'ils changent, sans qu'ils bougent de place. Mmh. Simplement par le jeu des micros, simplement par le jeu des prises de son. Et c'est extraordinaire. On arrive à donner la profondeur, on arrive à donner les déplacements de gauche à droite, on arrive à donner les déplacements de haut en bas. On arrive vraiment à faire un cinéma de l'imagination.
Ouais, on donne du relief au bruit.
On donne du relief au bruit et puis les gens imaginent le décor. Ça, c'est formidable. Parce qu'il n'est pas forcément celui que vous avez voulu leur faire naître. C'est leur imagination qui travaille.
J'ai trouvé au grenier dans de vieux papiers un disque oublié. Un disque abandonné depuis des années, je l'ai écouté. C'est un 78 tours, c'est une chanson d'amour des années 30. C'est un disque fatigué, un vieux disque un peu usé, pourtant il chante une histoire de tous les jours, une histoire de toujours qui dit je t'aime. C'est un 78 tours. C'est une chanson d'amour, toujours la même. Non, rien n'est plus pareil sous notre soleil, mais rien n'a changé.
d'autres orchestrations, la même chanson, ça fait rêver. C'est un 78 tours, c'est une chanson d'amour. Des années 30, c'est un disque fatigué d'avoir un peu trop tourné. Pourtant, il chante une histoire de tous les jours, une histoire de toujours. Un refrain des couplets, une chanson à succès. Toujours la même.
Une pièce donnée à la radio, vous savez, comme la radio nationale le fait, je crois que c'est France Culture avec la Comédie Française. Puis il y a des feuilletons aussi hein, sur France Culture.
Ah oui, moi j'ai écrit plusieurs. 4 ou 5 contes et dramatiques pour France Culture. Ouais, bien. Oui, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Bon, est-ce que ce genre d'histoire, au travers d'un instrument qui ne restitue pas l'image, mais qui laisse place à l'imagination, est aussi efficace ou plus ou moins que la télévision, par exemple, qui est un instrument infiniment plus dangereux, probablement, non ?
La télé, oui. Tout dépend de l'installation que vous avez chez vous aussi pour recevoir l'émission qui vous est transmise. Si vous n'avez qu'un transistor ou la stéréophonie devient mono, vous n'avez absolument pas cette imagination. Mais si vous avez une installation, mais ne serait-ce que petite, de stéréo, je vous assure que c'est aussi passionnant que l'image, et elle vous laisse quand même vos mouvements libres. Vous n'êtes pas obligé et tenu de rester assis devant cet écran qui abrutit complètement. Je ne sais plus quel pays, où. Je crois que c'est un pays du Nord, Suède, Norvège, ou enfin un pays scandinave, qui a supprimé la télévision un jour par semaine. Et ils se sont aperçus que l'éducation des enfants était bien meilleure depuis.
La télévision, d'après vous, d'après ce que je crois comprendre, c'est, d'après beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est un phénomène nuisible de l'époque où nous vivons, parce qu'il est pris à trop haute dose et parce qu'il n'y a plus de mesure.
Ça va très très loin. Vous savez qu'on s'est aperçu, une enquête qui a été faite, que les enfants aux États-Unis se réveillent la nuit avec des petits postes, puisque maintenant on trouve des postes de télévision miniatures, ouais. Et ils regardent, vous savez qu'il y a des émissions aux États-Unis toute la nuit, et ils regardent à 2h, 3h ou 4h du matin des westerns sous les draps. Exactement comme on faisait, nous, quand on était au collège, pour fumer une cigarette.
Ou pour lire
l'intrépide. Ou pour lire les Trois Mousquetaires, quand on est dans un collège de frères des écoles chrétiennes, où c'est absolument interdit. Moi, je me rappelle, je me suis fait virer avec les Trois Mousquetaires dans la poche, vous vous rendez compte? Alors que maintenant, vous promenez avec Barbarella, ils vous disent rien.
Des écoliers, au banc des accusés, de la nef des églises, au barreau des assises. Le procès du dernier poète, depuis longtemps est commencé. Nous sommes en l'an AX27, et c'est déjà le plein été. Dehors la foule attend, au rythme des slogans, dans le ciel des coupoles. S'agitent des banderoles, l'odeur du sang jaillit dans l'air jusqu'à la salle du jugement. Un courant passe chargé d'éclairs comme l'acier du châtiment.
Toi qui faisais chanter les pierres, les avais échangés en pain. Toi qui commandais à la mer, chanté les pierres qui savaient les changer en pain. Moi qui commandais à la mer d'un simple geste de la main. Je ne peux rien pour votre science puisqu'elle a détruit l'innocence. Seul devant la machine, on lui fouille le cerveau. Nom, âge, signe, couleur et numéro. Je suis poète de père en fils, je n'ai pas d'autre profession. Selon l'article 86, vous méritez l'exécution. Le grand ordinateur a réglé votre cas. Vos problèmes de cœur ne nous intéressent pas. Refusez d'être codifié et d'écrire sous notre contrôle. Et vos poèmes seront brûlés et vous devrez mourir à l'eau.
Moi qui faisais chanter les pierres, ils savaient les changer en pain. Toi qui commandais à la mer d'un simple geste de la main.
Tu ne dis rien pour ta défense, tes paupières se ferment en silence.
Moi qui faisais chanter les pierres, ils savaient les changer en pain. Moi qui commandais à la mer d'un simple geste de la main. Je ne peux rien pour votre science puisqu'elle a détruit l'innocence.
C'est ainsi que s'acheva le procès du dernier poète. Rappelez-vous, ce fut le soir où les fleurs s'endormirent pour ne plus se réveiller, et que là-haut dans le ciel, les étoiles s'éteignirent avant de tomber par milliers.
Ah, moi, j'ai eu un zéro de conduite à l'école aussi.
Avec quoi?
Dans une école privée. Parce que on a trouvé dans mon cartable, pendant la récréation, on a fouillé déjà. Alors, on a fouillé, puis on a trouvé le journal de Mickey. Alors.
Ah oui, mais le journal de Mickey n'était pas, moi, dans le collège où j'étais, interdit comme pornographique ou tendancieux. Moi, les Trois Mousquetaires, oui, parce que l'histoire de Milady, c'est une histoire de pute. Et ça, hein, pas question.
Bah écoutez, raisonnons logiquement. Le journal de Mickey, c'est pas très moral. Prenez donc Minnie et Mickey qui sont fiancés depuis si longtemps. Ça s'appelle quoi? Ils vivent maritalement, ces gens-là?
Ah non, pas du tout. Ils ont chacun leur maison. Vous le remarquerez.
Ah oui, c'est vrai.
Ils ne vivent pas en concubinage.
Oui, c'est vrai. C'est vraiment, enfin, c'est une vieille liaison tout de même.
C'est une vieille liaison, mais j'en connais plein.
Et Donald et Daisy, pareil. C'est une vieille liaison.
C'est une vieille liaison. Et puis il y avait aussi, attendez voir comment s'appelait le cheval et sa femme. Oh, je me souviens plus.
Ouais, je sais pas.
Mais aussi, ce sont des liaisons. Mais les Américains
sont très pudiques. Ils se marient jamais. Oui, bon, alors. Et c'est peut-être ça qui est répréhensible dans ce... Non, je cherche à analyser parce que j'ai toujours pas compris. C'est la seule fois de ma vie que j'ai eu un zéro de conduite dans cette école privée et par un monsieur qui s'appelait Monsieur Le Seigneur, en plus. Vraiment, il avait tout pour lui.
Oui, à côté de ça, on nous permettait de lire les contes de Perrault qui sont absolument épouvantables. Et la marquise, la madame de Sévigné, c'est épouvantable.
Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu passes en tricotant des hanches. D'un clin d'œil, le quartier est dragué. C'est bien toi, la reine de la place blanche. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu trimbales ton éventaire. Ton arsenal sans faire de chiquet a vaincu d'un grand militaire. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour,
t'es à croquer. Les gens disent que t'es de la mauvaise graine, parce qu'à chaque homme tu donnes la béquille, et que l'amour pour toi c'est de la rengaine. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer, chapeau bas, t'es une vraie citoyenne. Tu soulages sans revendiquer les ardeurs extra-républicaines. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer, car parfois tu travailles en artiste. Ton corps tu le prêtes sans rien faire casquer à tous les gars qu'on le regarde triste. Dans tes baisers, Julie Larousse, on peut t'embrasser le monde entier.
Madame de Ségur, n'est-ce pas?
Madame de Ségur, c'est terrible, c'est terrible.
C'est terrible, hein?
Mais c'est terrible, enfin, c'est cochon, même.
Oui.
C'est cochon.
C'est cochon, et puis ça va pas très haut.
Oui, non, puis ce monsieur qui s'amuse à donner des fessées aux petites filles, enfin, quoi, ça rime, c'est absolument honteux. On fait ça de nos jours, on ira en tôle.
Dis-loi le cheminot. C'est des... Ouais, c'est vrai. Ben, les lectures ont changé, les mœurs aussi. Et bon, et à ce niveau-là, est-ce qu'il n'est pas bon que l'audiovisuel se soit développé?
Oui, oh, parce qu'il repasse comme dessin animé, c'est pas mieux. Hein. Vous voyez de ces trucs, c'est assez spécial.
Mmh. Oui, mais...
Non, moi je trouve qu'il y en a trop. Et les enfants sont absolument dingues devant cet instrument. Dingue, dingue, dingue. Moi, j'ai un fils qui a 12 ans, il arrive de l'école, paf, la télé. On est obligé de se fâcher, de la fermer pour qu'il aille faire ses devoirs et qu'il pense à autre chose. C'est terrible. Et puis, il n'y a pas que le mien. Tous les fils de mes copains sont dans le même état.
Parce qu'il y a eu ces fameuses journées de grève, tout le monde se sentait bien, finalement. Il n'y a pas eu de sclérose, il n'y a pas eu de psychose, du manque de télé.
Mais non !
Les gens ressortaient.
Mais non, il n'y avait pas de manque. Le cinéma avait repris une activité presque normale. Le théâtre avait... fait des bons, un bond en avant extraordinaire. Tous les spectacles remarchaient. On s'est aperçu que c'était très bénéfique.
Finalement, ça veut dire que ce n'est pas une véritable drogue, alors ?
Non, ce n'est pas une véritable drogue. C'est une habitude, vous savez. Ce qui est terrible, c'est que nous allumons la plupart du temps sans choisir. Et ça, c'est assez grave. Je vois les gens qui rentrent chez eux, hop, première chose, le premier geste, la télé. Et hop, et c'est n'importe quoi. C'est la pub, c'est le dessin animé ou c'est le film, ou sans les actualités, tout le monde est branché là-dessus.
Alors,
regardez le geste. Vous avez une chaîne qui termine son émission. Combien y a-t-il de personnes qui se lèvent pour aller changer de chaîne pour voir s'il y a autre chose sur l'autre? Des millions, tous les soirs.
Et celles qui restent assises sont celles qui ont la télécommande.
Bien sûr.
Les voyous ont les mains bien trop blanches. C'est pas eux qui casseraient des cailloux. Ils marchent en s'appuyant sur les hanches, avec de la mollesse dans les genoux. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Ils font le commerce des cartes postales, où on voit des dames peu habillées, ou bien du côté la place Pigalle, ils jouent les grands calmes énervés. Laissez passer les voyous, là les grands voyous, ils sont bien souvent d'humeur méchante, aux pâleurs écrasées les doigts de pied. Surtout si vous faites 1m50 et 40 kilos tout habillés. Laissez passer les voyous, là les grands voyous, parfois en période électorale, ils se transforment tous en écoliers pour aller à l'école communale,
chanter plusieurs fois sans rechigner. Laissez passer, voyous, là les grands voyous. Mais tout n'est pas rose dans leur vie. Ils se tuent entre eux au coin des rues. Rien dans la rubrique nécrologie. On lave le trottoir et rien de plus. Laissez passer les voyous. Là les grands voyous. Là les grands voyous. Là les grands voyous.
Eh bien. Où en sommes-nous finalement dans tout ça, dans cet audiovisuel qui se fait de plus envahissant, qui supprime la lecture individuelle, qui va même parfois jusqu'à supprimer les conversations familiales et les contacts entre les gens d'une même maison et d'un même foyer. Où en sommes-nous? Que devient le monde? Que devient l'artistique dans ce monde-là? Que devient la chanson? Que devient votre métier? Où en êtes-vous? Où en sont-ils?
Ben, nous sommes en pleine mutation, je pense que... d'ici peu de temps, il va y avoir une nouvelle invention qui va envahir le marché, qui va mettre le comment ça, ça s'appelle, ça va s'appeler ce truc. C'est même pas, ils n'ont même pas encore trouvé le nom.
Ça va servir à quoi?
Eh bien, ça va être un disque qu'on va mettre sur un appareil et où vous aurez non seulement le son, mais où vous aurez l'image.
C'est le vidéodisque.
Le vidéodisque, ça c'est le grand drame qui va nous arriver ces prochaines années.
Déjà la vidéocassette.
Il y a déjà la vidéocassette. Alors là, c'est un drame pour les artistes que nous sommes, parce que nous nous sommes très mal défendus. Vous savez qu'il n'y a absolument aucune royalty qui soit versée sur les interprètes en France, alors que presque tous les autres pays ont accepté la chose. Un interprète, mais quel qu'il soit, aussi bien M. Weissenberg, je prends Weissenberg, comme je prendrais un autre chef d'orchestre, qui dirige le grand orchestre de philharmonique de Philadelphie ou de Boston, vous pouvez le piquer sur votre magnétoscope, vous pouvez le passer 20 fois, 30 fois, 50 fois, sans que ni les musiciens, ni le chef d'orchestre ne touchent quoi que ce soit comme redevance. Un artiste de variété, c'est exactement la même chose. Une pièce de théâtre, c'est pareil. Vous pouvez repiquer une pièce de théâtre qui est diffusée à la télévision sur votre magnétoscope, et il n'y a pas de royauté qui soit versée aux interprètes.
C'est du vol?
Ah, c'est du vol, à mon avis, oui, c'est du vol, oui, bien sûr.
C'est la faute à qui?
Ben, c'est la faute à nous. D'abord, au départ, qui nous sommes très mal défendus sur ce genre de choses. Nous sommes nous ne prévoyons pas l'avenir. Nous sommes encore, qu'on le veuille ou pas, des cigales. Oui, bien sûr. Alors, il va falloir s'en occuper très sérieusement. Ce sont des choses, il faut penser à l'avenir, il faut penser à ceux qui nous suivent. Et qui ne soit pas une grugée comme nous le sommes.
Je crois que c'est en 77 qu'il y a eu la fameuse grève des comédiens.
Oh oui, il y en a eu plusieurs, des grèves de comédiens.
La dernière en date, la plus grande.
Oui, je crois que c'est 77.
77, hein. Oui. Qu'est-ce que ça a changé?
Rien
dans
du
votre...
tout. En quoi voulez-vous que ça change quoi que ce soit? Il y a un tel stock de films, de dramatiques, de... que, en définitive, c'est un cotter sur une jambe de bois. Les gens s'en foutent éperdument. Non, je ne crois pas à la grève pour ce genre de corporation.
C'est ce que j'allais vous demander.
Je ne crois pas du tout.
Est-ce que l'art peut... Bah, parce que c'est un art tout de même, tout ça. Est-ce que ça peut cesser simplement pour embêter le consommateur?
Bon, je ne crois pas. Vous voyez, une grève des peintres, qu'est-ce que ça serait drôle?
Ouais,
ils ne peignent plus pendant 2 ans. Et alors, il y a un tel stock qu'on finirait par rigoler le reste. Et puis ça ne gêne personne. Ça ne gêne que ceux qui font la grève.
C'est un métier complètement à part.
Oh, c'est un métier complètement à part. D'abord, c'est un métier d'individualiste. Surtout les variétés. Surtout les variétés. Comment voulez-vous structurer les variétés en France ou ailleurs? Nous sommes tous des individualistes. Nous travaillons seuls. Bon, on a bien sûr une maison de disques, on a bien sûr un directeur artistique ou des choses comme ça, mais nous sommes quand même seuls. Alors comment voulez-vous structurer la chose? Vous ne pouvez pas interdire à un garçon d'aller chanter sur un poste périphérique ou à une chaîne de télévision parce que vous avez décidé de faire une grève. Lui, il a la promotion de son disque ou la promotion de son spectacle à faire et il y va.
Est-ce que, de plein droit, vous avez droit de regard sur votre emploi du temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne ferez jamais parce que c'est pas en accord avec vos idées et avec votre conscience et en tout cas avec l'opinion que vous vous en faites?
Oui, mais quels exemples, par exemple? À quoi pensez-vous?
Je ne sais pas. Je ne pensais d'ailleurs à aucun exemple précis, mais je ne sais pas. Prenons telle ou telle manifestation à caractère un tant soit peu politique ou qui précède une élection. Bon, il y a les élections européennes qui sont pas bien loin des esprits en ce moment. Est-ce que vous y regarderiez à deux fois avant d'aller chanter pour Pierre, Paul ou Jacques?
Moi? Oui. Vous me demandez ça à moi?
Oui, bien sûr.
Qui suis mouillé jusqu'au cou politiquement?
Moi, je vais vous dire pourquoi je vous demande ça à vous,
oui, mais
qui êtes mouillé politiquement jusqu'au cou, comme d'autres sont mouillés politiquement jusqu'au cou, mais dans d'autres, sous d'autres étiquettes. Hein. Bon, je vous demande ça parce que on peut très bien concevoir au fond qu'un chanteur fasse une différence entre son art, ses idées, c'est-à-dire sa personne physique, non?
Oui, on peut y penser, mais...
C'était ça le fond de ma question,
oui,
finalement.
Oui, mais enfin, j'ai chanté plusieurs fois pour le mouvement auquel j'appartiens, simplement pour amuser les spectateurs qui étaient là, dans des creux, dans des choses comme ça. Oui, non, j'ai chanté plusieurs fois. Non, je crois pas que ce soit incompatible avec le métier. Il y en a plein d'autres qui le font, vous savez.
Oui, non, mais je ne pensais pas non plus que ça ait pu être incompatible.
Non, c'est une chose qui n'est pas encore tout à fait admise en France. Mais aux États-Unis, c'est une chose parfaitement courante. Monsieur Sinatra va chanter pour tel futur président. Il a chanté pour Kennedy, tout le monde le sait. Et puis plein d'autres ont chanté avec lui pour le président Kennedy au moment des élections. D'autres ont chanté pour Nixon. Et je suis sûr qu'il y en a eu plein qui ont chanté pour Carter. Mais ça ne gêne absolument pas leur carrière, par contre. En France, hein, c'est pas encore tout à fait admis. C'est encore... Normalement, le chanteur ou l'artiste doit pas se mouiller. Ben, je suis pas d'accord. Moi, le chanteur et l'artiste sont des citoyens à part entière, comme tout le monde.
Et qui payent leurs impôts et qui ont le droit
de... Eh oui, et qui les payent bien la plupart du temps, à part quelques exemples.
Il est venu de Buenos Aires un soir d'hiver, et sans manière, il m'a balancé un clin d'œil. Et s'est posé dans mon fauteuil. Il a retiré son chapeau et m'a dit: mon nom c'est Tango, tu me connais? Et comme au temps de sa splendeur, il a chanté avec ardeur cet air qui fait: yo te quiero mucho, mucho, mucho. Yo te quiero, mi amor. Oh, bésame, por favor. Yo te quiero. Mucho, mucho, mucho. Les tangos, c'est pareil aux hommes, c'est du tout comme... Cœur à la gomme, tu leur dis tu leur dis oui. Et ça te raconte sa vie. Ça te parle de ses 20 ans, de tous ces merveilleux printemps qui sont enfuis. Ça te dit tout sur ses amours, ça se penche sur ses beaux jours, ça s'attendrit. Yo te quiero,
te quiero.
Mucho, mucho, mucho.
Te quiero, te quiero.
Yo te quiero, mi amor. Oh, bésame, por favor. Yo te quiero. Mucho, mucho, mucho. Il m'a fait si froid dans le cœur, le vieux chanteur, qu'avant qu'il ne pleure, je l'ai jeté, et sans histoire, pour mettre un frein à sa mémoire. Ce qui fut ne sera jamais, pourquoi chanter notre passé, le tien, le mien? Mieux vaut garder dans le silence notre amour pour qu'il recommence. Tu te souviens?
Yo te quiero,
te quiero,
te quiero. quiero.
Mucho, mucho, mucho.
Yo te quiero,
mi amor. Oh, besame, por favor. Yo te quiero. Mucho, mucho, mucho.
Bon, eh bien, on a passé presque une heure ensemble, on a écouté des disques que vous avez enregistrés, on a feuilleté un petit peu votre album sonore, on a essayé de savoir un petit peu les idées principales qui habitent votre tête. Votre grande idée actuelle, c'est quoi ?
Ma grande idée ?
Oui.
Eh bien, c'est de faire une nouvelle rentrée au mois de septembre-octobre, en changeant un petit peu encore ce que j'ai esquissé cette fois-ci, c'est-à-dire faire... une rentrée à cheval sur la comédie et le chant, beaucoup plus encore que je ne l'avais faite cette fois-ci. Une espèce de comédie musicale à un personnage, une espèce de gamberge. Ça peut être amusant à faire.
Réflexion à haute voix.
Oui, c'est ça, je voulais même l'appeler réflexion. Oui.
Ah.
Oui, oui, c'est drôle. Et il y a Jean-Claude Massoulier qui est là-dessus, il y a plusieurs auteurs qui sont là-dessus. On travaille, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis sûr que ça peut être très chouette. La gamberge, la réflexion, c'est ça, réflexion.
Gamberge est un mot qui a souvent habité votre vocabulaire.
Ah oui, parce que c'est une des premières chansons, c'est la première chanson que Jean-Yann ait écrite. Et il me l'avait écrite, il m'avait fait ce cadeau, et ça s'appelait La gamberge. Et c'est tellement le reflet de la jeunesse, cette chanson. C'est tellement tout ce qu'on a envie de faire, c'est tellement tout ce que... On veut faire quand on est jeune, et puis le temps passe et on se rend compte qu'on n'a pas fait grand-chose, que cette chanson m'avait frappé.
Est-ce que vous êtes un homme qui a réussi, enfin autant qu'on puisse réussir dans la vie d'ailleurs, qui a réussi à faire tout ou partie de ce dont il avait envie ?
Oh, j'ai fait une grosse partie de ce que j'avais envie de faire. Nous appartenons à un métier tous autant que nous sommes, où nous devrions aller tous les jours porter un cierge à la Vierge. Tous, je dis bien, chanteurs... et chanteuse. Parce que faut bien l'avouer que ça nous arrive des fois à une vitesse folle au moment où on s'y attend pas. Et on a eu beaucoup de chance de se faire un nom. Et c'est formidable d'arriver à faire ça. D'arriver à se faire une place au soleil dans un métier qu'on aime. C'est rare, hein. Il n'y en a pas des masques qui arrivent.
Qu'est-ce qui fait le plus mal? La vache enragée qu'on mange avant ou celle que certains d'entre vous ou d'entre nous mangent après?
Bon, je suis sûr que c'est celle qu'on mange après. Parce que celles qu'on mange avant, essayez avec les confrères de parler de leurs souvenirs, et vous vous rendrez compte que toute la partie de vache enragée, c'est la partie où ils sont le plus amusés.
La vache enragée qu'on mange après, c'est celle qui a un goût d'aigri.
Oui, celle-là est dramatique. Celle-là est très très grave.
C'est le comble de la misère de l'artiste ?
Oh, je pense, oui, la déchéance, c'est épouvantable. Surtout l'aigreur.
Et l'oubli ?
Et l'oubli, oh ben ça, il faut s'y attendre à l'oubli, hein, parce que on va pas tous se chanter autant que nous sommes là, à 80 ans, si on a la chance de vivre jusque-là. Donc il faudra bien qu'un jour, on se retire des affaires et le public vous oublie très vite, très très vite.
On ne va pas chanter, disiez-vous, jusqu'à 80 ans. Il y a eu pourtant des exemples.
Oui, oui, il y en a eu.
Ça n'était pas de bons exemples.
Bon, je crois pas que c'était tellement terrible à voir. Hein.
C'était un mythe que l'on regardait sur scène à ce moment-là ?
Oui, je crois que c'était une légende qu'on regardait. C'était le reflet des années folles. Vous voyez de qui je veux parler.
Est-ce que la légende la plus belle est précisément celle que l'on ne voit pas ?
Moi, je pense qu'il y a certains chanteurs que je n'ai pas vus, dont j'ai entendu parler. Je suis très heureux parce que je ne les ai pas vus à la fin de leur carrière. Et je les ai toujours imaginés tels qu'ils pouvaient être au moment de leur... De leur grande gloire.
Eh bien, Philippe Clay, nous avons écouté vos disques, nous avons parlé avec vous, nous avons retrouvé avec plaisir sur cette antenne qui vous est familière, vous y êtes venu souvent déjà, et vous y reviendrez quand vous le voudrez pour jeter comme ça, au hasard du temps et au hasard des ondes, quelques-unes de ces idées qui vous sont chères et que les gens qui vous suivent aiment à vous entendre exprimer. Vous avez autre chose à ajouter ?
Non, simplement vous remercier et puis vous dire, je l'espère aussi, à bientôt.
À bientôt et merci à vous. C'était Contact et c'était Alphonse Lacoste qui était à l'origine de cette belle œuvre technique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers auditeurs, c'est comme on disait dans le temps, à la semaine prochaine sur cette même antenne et à la même heure. Au revoir.
Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.